Content d'être là parmi vous
pour vous parler aujourd'hui du texte qui est aujourd'hui qui est mon texte préféré dans la Bible, qui a longtemps été le texte que je détestais le plus. Et je vais un peu vous expliquer cette histoire en même temps que je vous présente ce texte. Voilà, on vous avait suggéré dans les lectures de la semaine de le faire. Alors, je suis prof en vrai, et d'habitude je passe dans les rangs pour vérifier, ou pas sur l'église, je ne vais pas passer dans les rangs pour vérifier si vous avez fait vos devoirs. De toute façon, je vais résumer un petit peu ce qui se passe, on va le relire ensemble. Alors, ce prêche, c'est la fin en fait d'une série de 3 prêches que j'ai faites cette année. C'est pour ça que c'est Job partie 3. La première partie, en février je pense, était sur les chapitres 1 à 37. En juin, j'avais fait un petit aparté sur une histoire personnelle qui m'était arrivée avec un dégât des eaux sales. Voilà. Et là, du coup, je finis sur les chapitres 38 à 42. Voilà, et donc... Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais quand même faire un retour sur les chapitres 1 à 37. Donc, résumé de l'histoire jusque-là. Donc, Job, c'est un homme qui a priori vit au Moyen-Orient, dans un certain âge, qui est riche et qui croit en Dieu, qui est fidèle à Dieu. Ensuite, alors, et ce qui se passe, c'est qu'au tout début de Job, il y a une scène étrange où on est devant Dieu, et là, il y a Satan qui arrive et qui accuse Job en disant « Oui, mais Job, il se comporte bien avec toi juste parce que tout se passe bien pour lui. » Si ça se passait mal, tout de suite, il te renierait. Tout de suite, il ne serait pas avec toi. Du coup, Dieu, il dit, « Ok, tu ne touches pas à sa santé, tu ne touches pas à sa vie, mais tu peux faire ce que tu veux avec lui. » Et du coup, Job perd sa famille, ses richesses et sa santé. Et la situation a l'air très injuste. Du coup, Job se retrouve dans cette situation tout seul. Et là, il y a 4 amis qui arrivent pour argumenter avec lui, en fait, plutôt contre lui, dans la situation. Et, en gros, les 37 premiers chapitres, c'est un débat entre ses amis et Job, de l'autre côté. Essentiellement, la question qui est derrière ces débats, c'est est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu... pourquoi il y a de la souffrance? Est-ce que Dieu fait tout selon sa justice? Est-ce qu'il juge le monde selon la justice? Ou est-ce qu'il est injuste? Et la pensée qui traverse le livre, j'en avais longtemps parlé la dernière fois, donc je reviens sur cette idée. En fait, derrière cette question de la souffrance, il y a l'idée que Dieu agit selon ce que je fais. Plus concrètement, ça veut dire que si je me comporte bien, bah, Dieu il me bénit. Si je me comporte mal, bah, Dieu il me maudit. Voilà, c'est simple. Si je me comporte bien, Dieu me bénit. Si je me comporte mal, Dieu il me maudit. Le raisonnement, en fait, qui est le raisonnement un peu de toutes les personnes, dans ce texte, c'est celui-là. Je vous en avais longtemps parlé la dernière fois. Et donc, comment est-ce que ça marche concrètement? Du point de vue de Job, Job se sait innocent. Il a rien fait de mal. Et on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai parce qu'au tout début, Dieu dit de la part de Job, enfin Dieu a dit au sujet de Job, que c'est un homme selon son cœur. Donc, Job est innocent, il se sait innocent. Du coup, il dit, bah, ma souffrance, elle ne peut pas venir de la justice divine. Donc, 2 conclusions possibles. Soit Dieu n'est pas juste dans sa façon de diriger le monde. Dieu ne dirige pas le monde selon la justice. Alors, il est juste. Par contre, le monde, c'est un peu plus le bazar. Soit il n'est pas juste du tout. Je rajouterai une troisième possibilité. Il aurait pu aussi se dire Dieu n'existe pas. Moi, c'était ce que je me suis dit à un moment. Je reviendrai dessus après. Donc ça, c'est du côté de Job. Et du côté des amis, eux, ils savent que Dieu est juste. Du coup, la conséquence, c'est que Dieu gère le monde selon la justice. Conclusion, Job ment. Job a péché, Job a fait des bêtises pour en arriver là. Donc, voilà un peu le débat qu'on a jusque-là. Sauf que, donc, cette idée-là, cette idée dont j'ai déjà parlé, elle est fausse. Fausse. Il faut vraiment rentrer ça dans la tête. Dieu n'agit pas comme ça. C'est pas parce qu'on se comporte bien qu'on va être béni. C'est pas parce qu'on se comporte mal qu'on est maudit. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va bien pour moi que je suis dans la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va mal pour moi que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, on se pose cette question, mais pourquoi? Et ce qu'on voit dans le texte, au tout début, donc, c'est que c'est cette histoire qu'il y a Satan. Il y a l'accusateur qui est là. Et... Il y a un problème et le combat il est contre Satan. La semaine dernière, vous avez un prêche sur Ephésiens 6 et les différentes armes de l'esprit. Donc je n'étais pas là précisément. Mais il y a cette notion de combat qui est là. D'ailleurs, Job lui-même, dans Job 7, verset 1, va dire « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. » Et tu ne comprends pas forcément ce qu'il dit à ce moment-là, mais moi, en tout cas, la façon que j'ai de vous le dire, c'est effectivement, il y a un combat. Et le combat, il est contre le diable. Alors, du coup, après toutes ces discussions, il n'y a plus personne qui n'a rien à dire, essentiellement, parce que, bah, en fait, Job est convaincu d'avoir raison, ses amis ils sont convaincus qu'il n'a pas raison, et bah, voilà, on est coincé. Donc, on en est là, et à ce moment-là, il y a Dieu qui se révèle. Il y a Dieu qui répond. Voilà. Et il apparaît dans une tempête, d'où l'orage. Et on se dit, chouette, on va enfin avoir des réponses. On va enfin savoir ce qui se passe dans la tête de Dieu, on va enfin comprendre pourquoi est-ce qu'il a permis ça. Job va enfin pouvoir être un peu apaisé par rapport à cette situation. Mais bon, pas du tout. Alors, voilà, si vous avez lu le texte, vous savez qu'il ne répond pas vraiment. Du coup, je vais vous lire ce texte. Alors, ce texte, moi, c'est le texte que je trouve le plus beau de la Bible. Voilà, bon, c'est de la poésie hébraïque, donc on n'est pas forcément très sensible à la poésie hébraïque. Du coup, je l'ai librement réécrit, vous allez voir, pour traduire un peu cette idée. Voilà, donc, c'est adapté de la version Louis II. Qui est-il celui qui, mes desseins obscurcis, par de nombreux discours tous remplis d'inepties, ceins-toi les reins comme un vaillant homme au combat, je t'interrogerai et toi tu m'instruiras. Où étais-tu alors quand je fondais le monde? Dis-le maintenant si ta science est profonde. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou bien qui le cordeau sur lui a étendu? Sur quoi ses fondements se sont-ils appuyés? Ou bien qui a posé l'angulaire rocher? Quand astre du matin fit entrer plein de liesse et que les fils de Dieu s'exclamaient d'allégresse? Qui ferma la mer par des portes éternelles quand elle s'élança de son sein maternel? Lorsque de la nuée je fis son vêtement et des ténèbres des l'ange comme un enfant? Quand j'imposais ma loi pour briser son élan, que je lui soumettais verrou et portail puissant? Quand je lui ordonnais, tu n'iras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, il en sera ainsi, ici s'arrêtera l'orgueil de tous tes flots. As-tu, de ton vivant, au matin commandé? Ou bien as-tu montré, toi, sa place à l'aurore, qu'elle le saisisse ainsi de la terre les bords, que les hommes méchants en soient bouleversés? Pour que la terre alors se transforme, se teinte, comme l'argile qui reçoit nouvelle empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Pour que les méchants soient de lumière privés, et qu'ainsi soit brisé le bras qui s'est levé. Es-tu déjà allé aux sources de la mer? Au tréfonds de l'abîme as-tu jamais été? Les portails de la mort ont-ils été ouverts? De l'ombre de la mort, portes as-tu scruté? As-tu embrassé du regard toute la terre? Si tu l'as pleinement contemplé, montre-le. Quel chemin conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur lieu? Peux-tu t'en emparer à leur division? Connaître les sentiers de tous leurs pavillons? Mais tu le sais si bien, déjà tu étais né, le nombre de tes jours est grand et élevé. As-tu atteint le lieu des grands amas de neige? Et les dépôts de grêle, as-tu vu leur siège? Qu'en réserve je tiens pour les temps de détresse, pour les jours de combat, de guerre vengeresse? La lumière, par quel chemin se scinde-t-elle? Et le vent d'Orient se répand sur la terre? Qui ouvrit un passage à l'averse du ciel, traça la route de l'éclair et du tonnerre, pour que tombe la pluie au sol sans habitant, sur un grand désert où il n'y a point de gens? Qu'elle abreuve les lieux arides solitaires, et fasse ainsi germer, sortir l'herbe de terre. Voilà, je m'arrête là pour la lecture. Donc, voilà, qui est une version juste poétique. Alors, on va revenir dessus sur qu'est-ce qui est dit. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Et essentiellement, tu peux passer. Excusez-moi. Alors, le premier constat, donc en gros, là, je vous ai lu le chapitre 38, versets 1 à 37, et c'est à peu près comme ça jusqu'au chapitre 41, jusqu'à la fin du chapitre 41. Et le premier constat, Dieu ne répond pas à la question. Dieu ne dit pas, oui, ben, effectivement, tu as eu des difficultés, mais c'est parce que Satan a voulu t'aider comme toi, et moi j'avais confiance en toi, donc j'ai permis ça. Il répond pas à cette question, du tout, et c'est très frustrant. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va voir ça en trois points. Premier point, une autorité indiscutable. L'autorité de Dieu, et Michael en a déjà beaucoup parlé ce matin. Ensuite, on va parler de l'amour de Dieu malgré tout dans ce passage. Et ensuite, deux, trois petits défis pour vous. Alors, autorité indiscutable, vas-y. Donc, Dieu parle dans ce passage de la complexité de la création. Dès le début, Job 38, verset 3, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait au début ? Est-ce que tu sais comment j'ai fait les choses ?» Et Voilà, et ensuite, à peu près tout le chapitre 38 et une bonne partie des suivants, Dieu interroge Job en lui demandant comment est-ce que le monde a été créé, qui est-ce qui dirige la mer, qui donne la sagesse, etc. etc. Et si on en est là, bah, en fait, c'est très frustrant. Parce que Dieu ne répond pas à la question. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et je vous ai dit en introduction que c'était longtemps mon texte détesté et que c'est devenu mon texte préféré. C'était mon texte détesté parce qu'il y a eu une période de ma vie, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et j'ai eu une période de ma vie qui a été très compliquée, qui a duré à peu près 2 ans, où au moins un soir sur deux je pleurais, où j'avais des pensées suicidaires et autres. À cause de cet événement-là, j'avais différentes difficultés dans ma vie, et j'avais un peu cette idée que bah, du coup j'avais dû faire une bêtise. Mais je ne voyais pas laquelle, je ne comprenais pas. Et du coup, bah, j'en étais arrivé à la conclusion que Dieu n'existait pas. Mais pour moi, si Dieu n'existe pas, ça ne sert à rien de vivre. Donc j'avais des pensées suicidaires à cause de ça. Et voilà, j'ai eu 2 ans assez compliqués dans ma vie par rapport à ça. Et donc dans cette période-là, j'ai beaucoup lu Job. Ce n'est pas la meilleure idée à faire. Mais j'ai beaucoup lu Job en cherchant des réponses. Et je me suis énormément énervé sur ces chapitres 38 à 42. Parce que j'avais juste l'impression que Dieu se moquait de moi. Enfin, qu'il ne répondait pas à la question, qu'il ne donnait aucun élément de réponse. Et j'ai continué à lire en me disant « Non, mais j'ai du mal à comprendre, il y a forcément autre chose derrière. » Il y a autre chose, j'y reviens après. Mais voilà, ça c'était un bout de mon histoire, pourquoi j'ai détesté ce texte pendant longtemps. Et je pense qu'on peut souvent avoir cette situation-là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une situation difficile, ou peut-être que ça fait écho à des moments dans votre passé, où on se demande « Mais pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que tu permets ça ?» Et il n'y a pas de réponse. Et on cherche parfois des réponses et on ne les trouve pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est quand même de voir ce que dit Dieu. Pourquoi il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça à travers ce passage? Alors, vas-y. Donc, il explique que la création est très complexe, mais par-delà ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous ai dit, voilà, ça c'était l'idée générale de toute la discussion avant, des chapitres 1 à 37. La pensée que si je me comporte bien, alors je suis béni, si je me comporte mal, alors je suis maudit. En fait, il y a une autre pensée derrière ça, dans le raisonnement des personnes. Cette autre pensée, c'est le fait que je peux dire comment Dieu agit. Que je peux dire, ben voilà, si j'appuie à tel endroit, si je fais bien ma prière entre 6h et 6h33 le matin, j'aurai une réponse à ma prière. Que je peux dire, je peux actionner le bras de Dieu d'une certaine façon. Je peux comprendre comment il fonctionne. Et alors là, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais comme tout à l'heure, il faudrait un gros faux en gros là-dessus. On ne peut pas comprendre Dieu. Et en fait, c'est ça la réponse de Dieu. C'est, je suis au-delà de tout ça. Je suis au-delà de tes raisonnements, je suis au-delà de tes pensées. Et il faut que tu acceptes ça. Voilà. Et Dieu n'est pas un homme pour qu'on puisse le condamner. Dieu n'a pas à répondre devant nous. Job 40, verset 8, c'est toujours Dieu qui parle à Job. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Dieu sous-entend que Job dit qu'il est juste et donc que c'est Dieu qui se trompe. Mais qui est-ce qu'on est pour accuser Dieu et dire que Dieu se trompe? Vas-y, juste. Ah oui. Vous savez ce que c'est? Comment ça s'appelle? Ouais, un polichinelle ou un diable en boîte. Je préfère ce mot. Alors, c'est un de ces petits noms. Alors, pourquoi un diable en boîte? Parce que, donc, c'est une boîte avec une petite manivelle. On tourne, ça fait de la musique, c'est joli. Et puis, à un moment, la boîte s'ouvre. Et donc soit le clown, soit en l'occurrence, là, c'est un diable, on voit les petites cornes, qui sort et qui est censé faire peur. Voilà. Donc, voilà, c'est un nom qu'on a utilisé un peu pour rendre ridicule le côté du diable. Bon, ça, je passe là-dessus. Mais je trouve que souvent, on a la même tendance parce qu'on met Dieu en boîte. On essaie de l'enfermer dans un cadre et lui dire surtout tu sors pas là. Surtout, tu ne vas pas plus loin. J'ai compris comment tu fonctionnais. Voilà, par exemple, moi, pendant très longtemps, je suis habitué de perdre des objets. Et du coup, j'avais compris que si je priais, je les retrouvais dans les 3 minutes. Parfait. Du coup, Du coup, dès que je priais, dès que j'avais pas un objet, je priais, je retrouvais mon objet dans 3 minutes, parfait, bouton poussoir. Bon, sauf que de temps en temps, ça marche pas. Et notamment, il y a une fois, c'était il y a 2 mois, où j'avais perdu mon téléphone portable. J'ai prié et je vais pas retrouver dans les 5 minutes. Je l'ai retrouvé 7 heures après parce que je l'avais oublié chez moi. Dans les 7 heures, au début, j'ai bien stressé. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi peut-être que Dieu voulait m'apprendre autre chose à travers ça. Par exemple, que je passe trop de temps sur mon téléphone portable.
Entendre ça qui veut.
Donc, une boîte. Alors, je pense que de toute façon, on est trop limité pour comprendre tout Dieu. Dieu, il remplit l'univers entier. Nous, on est un peu obligé de toute façon de... On a une vision limitée. Mais ce que je veux vous encourager, c'est que là, actuellement, ma représentation de Dieu, elle est juste là. Elle est juste là-dedans, donc dans ce petit coin ici. Et moi, ce que je veux vous encourager, c'est de lui laisser de plus en plus de place dans vos vies. Voilà, il a quand même beaucoup plus de place. Bon, voilà, donc là, il a toute la place de la boîte. Bon, on pourrait faire mieux, mais ce que je veux vous dire, c'est que, bon, notre vie, en fait, c'est pas souvent ça. C'est plutôt ça. C'est... Faut voir ça comme un immeuble. Hop là. On peut voir notre vie. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Moi, je vais plutôt dire qu'on est l'immeuble du Saint-Esprit. Et que, de base, on n'a qu'un rez-de-chaussée au moment de la conversion. Et puis qu'au fur et à mesure, dans notre vie, il faut détruire les places. Voilà. Et laisser plus de place à vie. Hop là. Et que toute notre vie, le but, c'est de détruire les places. Pour que Dieu puisse grandir dans notre vie. Pour que Dieu puisse être élevé dans notre vie. Je pense que le premier plafond, enfin, moi je pense que je suis rentré là-dedans le jour où je me suis converti. Puis il y a un jour où j'ai compris, par exemple, que le baptême c'était important. Donc là, c'est un premier plafond parce que je comprends une autre façon de voir les choses de Dieu. Il y a eu cette fois, cette épreuve de 2 ans, où j'ai compris qu'en fait, non, Dieu ne m'avait pas promis que tout serait facile. Et voilà, je pense que dans ma vie, il y a une 15aine de plafonds que j'arrive à voir, que j'ai pu faire sauter. Je pense qu'il y a encore quelques milliers, centaines de milliers d'étages au-dessus. Bon, voilà, j'ai un peu de travail. Mais je pense que c'est vraiment voilà, l'encouragement, je viendrai à la suite dans les applications, mais l'encouragement que j'ai pour vous, essayez de voir, de comprendre les plafonds. Qu'est-ce que c'est un plafond? Un plafond, c'est ce qui limite Dieu. C'est ce qui limite Dieu, à la soit parce qu'on a une idée fausse sur lui, soit parce qu'on a une idée fausse sur nous. Voilà, ça peut être de toute façon, je ne suis pas aimé, donc c'est pas Dieu, il peut pas m'aimer. Ça peut être, de toute façon, Dieu, il n'aime pas les autres. Ça peut être, de toute façon, Dieu, il préfère les autres à moi. Ça peut être, de toute façon, je suis génial. Bref, vous avez compris l'idée. Alors, vas-y. Donc, voilà, ça c'était pour la première partie. Dieu est au-dessus de tous nos raisonnements. Mais, on va encore dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, donc c'est un texte dur. Voilà, Dieu, il est dur dans l'Ancien Testament. Heureusement, il y a le Nouveau Testament. Je veux vous montrer que dans ce texte même, on voit... aussi, le fait que Dieu prend soin. Que Dieu prend soin, que Dieu aime. À travers 3 points, puis je finirai quand même avec l'exemple de Jésus-Christ. Mais, voilà, on va commencer. Le premier truc, alors je ne vais pas forcément être long dessus parce que c'est un petit peu technique, mais en fait, la façon de répondre de Dieu, ce que Dieu dit dans le texte, il reprend des trucs qui ont été dits dans les discussions de Job et de ses amis avant. Un exemple très concret. Ah, ça va peut-être... Bon, c'est pas grave. Par exemple, au chapitre 28, verset 26, Job va dire, en parlant de Dieu, « Quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. » Et au 38, verset 25, Dieu, il interroge justement en disant à Job, « Tu le sais bien, qui est-ce qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre ?» Et en fait, il y a tout un système comme ça, de petits jeux, entre ce que vont dire les amis, Job et ses amis, et ce que va répondre Dieu. Voilà, donc là j'en ai mis différents, je ne les ai pas tous cités, c'est juste 2-3 que j'ai pu repérer. Par exemple, il y a un moment il est question de abîme et mer, et on retrouve dans ça dans la parole de Dieu plus tard. Il est question de pays de l'ombre de la mort dans la discussion de Job, et on retrouve les portes de l'ombre de la mort. Il est question de voir jusqu'aux extrémités de la terre, et il y a Dieu qui demande est-ce que toi tu as regardé et vu toute la terre. Il est question de neige, il est question de sagesse. Il y a Job au chapitre 28, c'est bon. Deuxième plus beau chapitre de la vie, voilà, ça c'est notre histoire. Job 28, verset 12, Job demande « Où est la sagesse ?» La réponse de Dieu en 38, verset 36, c'est « Qui est-ce qui a mis la sagesse dans le cœur ?» La sagesse est dans le cœur, c'est Dieu qui l'y a mis. Et, alors je ne sais pas comment vous, vous interprétez ça. Moi, je trouve ça beau, en fait, parce que ça montre que Dieu a tout écouté. Que Dieu était là, du début à la fin des discussions, qu'il n'est pas apparu à la fin en se disant « Bon, on médite un peu sur moi là-bas et je vais aller voir ce qui se passe. » Il a été là du début à la fin. Il a participé pleinement aux discussions. Et il donne des éléments de réponse. Il ne donne peut-être pas les éléments de réponse à la grande question qui est « Pourquoi ?» Mais il s'appuie sur ce qu'a dit Job pour aller plus loin. Et ouais, moi, j'ai vraiment trouvé ça beau de voir que Dieu, il écoute. Il nous écoute dans nos difficultés. Il nous écoute dans les moments où c'est pas facile. Alors, ensuite, donc là, essentiellement, j'ai parlé surtout du discours de Job, donc 38 à 41. J'ai pas encore beaucoup parlé du chapitre 42, le chapitre, donc, de la fin de l'histoire. Et, alors, Job va se repentir, mais avant ça, en Job 13, verset 1, Job avait dit, peut-être un peu orgueilleusement, « Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. » En parlant d'un peu de la façon de fonctionner Dieu. Il parlait justement de « Oui, je sais bien comment Dieu fonctionne. » Et voilà, là je vais vous lire du coup les six premiers versets de Job 42. « Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Entre guillemets, c'est ce qu'a dit Dieu précédemment. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Oui, c'est vrai. « J'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent, et que je ne conçois pas. » Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et toi tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et on voit une évolution dans le personnage de Job. On voit qu'il y a un changement aussi. Et ce qui est beau, c'est que quand il comprend qu'il a tort, voilà ce que disait Michael, quand Dieu se révèle, on a peur. Et là, en plus, il demande pardon. Il se repent pour ce qu'il a dit, parce qu'il a eu des paroles orgueilleuses, parce qu'il a eu des moments où il s'est énervé contre Dieu, et il a voulu l'accuser. Et voilà, donc ça c'est la réaction de Job, qui je pense est la réaction naturelle. Et par exemple, dans mon histoire que je vous ai racontée, de la période de 2 ans, dans cette période de 2 ans, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Non mais c'est dur maintenant, mais d'ici quelques années, tu remercieras Dieu pour cette période. » Je ne lui avais pas répondu sur le moment, je pense que mes pensées m'auraient trahi. Mais effectivement, 2 ans après le début de cette période, j'ai remercié Dieu pour ça. Parce que j'ai énormément grandi là-dedans. Parce que Dieu a voulu m'apprendre des choses. Voilà, c'est un ou deux ou trois plafonds qui ont sauté à ce moment-là, mais dont j'avais besoin pour pouvoir avancer avec Dieu. Et voilà. Et en fait, ce qui est beau, c'est que Job demande pardon, et Dieu l'accorde tout de suite. Alors, on n'a pas explicitement le fait que Dieu pardonne, mais bon, 2 versets après, on voit que Job est rétabli comme sacrificateur, c'est-à-dire que c'est Job qui va faire les sacrifices pour que les autres aient le pardon. Donc on comprend que Job a été pardonné tout de suite. Et ce qu'on voit ensuite dans la suite du chapitre 42, c'est que Job est béni. Avec de l'argent, du bétail, de nouveau une famille, une vie longue, il va avoir jusqu'à la 4e génération, ses enfants. Et tout ça, donc voilà, c'est plein de bénédictions à la fin. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est une pure grâce. Le passage précédent, tout ce qu'on a lu, montre clairement que Dieu n'a rien à répondre, que Dieu n'était pas obligé de bénir, que Dieu n'avait aucune obligation, qu'il n'a pas fait ça en dédommagement, voilà, l'autre consolation. Il a fait ça simplement par grâce. Pas un mérite de Job, pas un dédommagement. Parce que c'est le Dieu qu'on a. C'est un Dieu qui est plein de grâce. C'est un Dieu qui est élevé au-dessus de nous, voilà, qui contrôle 100 milliards de milliards de milliards d'étoiles et qui nous appelle toutes par un nom. Mais c'est notre Dieu qui est gracieux envers nous. Alors, le dernier point. La semaine dernière, donc moi je n'étais pas parmi vous, j'étais à Bordeaux et j'ai eu un prêche sur la résurrection de Lazare en Jean 11. Et en fait, ça m'a vraiment parlé, donc je vais vous en parler. Donc c'est dans Jean 11. Alors l'histoire, c'est Lazare, c'est un très bon ami de Jésus, que Jésus aime beaucoup, qui a 2 sœurs qui s'appellent Marthe et Marie. Lazare meurt à un moment et Jésus arrive après coup. Et la fin de l'histoire, je vous la gâche tout de suite, c'est que Jésus va ressusciter Lazare à la fin de l'histoire. Mais donc, en fait, ce qu'aurait pu faire Jésus, c'est arriver, ressusciter Lazare, et puis tout le monde était content. Voilà. Il aurait dû faire ça. Il n'a pas fait ça. Il est arrivé, il a répondu aux questions de Marthe, et il a pris du temps pour pleurer avec Marie. Voilà. Les préados, si vos mamans vous demandent souvent d'apprendre des versets par cœur, il y en a un à apprendre par cœur, Jean 11, 35, Jésus pleura. Voilà, le plus court verset de la Bible, si vous voulez primer. Mais Jésus pleura. Et ce que je trouvais beau dans cette histoire, c'est que, alors que Jésus est tout puissant, alors qu'il va le ressusciter d'un claquement de doigts en disant « bon, bah ouvrez la pierre et Lazare sort », il prend le temps de pleurer, il prend le temps de s'arrêter avec Marthe et Marie. Et voilà, je sais qu'on est plutôt dans la période de Noël, voilà, la naissance de Jésus, c'est tout mignon, c'est tout beau. Mais ce sur quoi je voudrais plutôt parler aujourd'hui, c'est plutôt de la vie de Jésus, et notamment de sa mort. Et voilà, Jésus, donc je ne sais pas si ça se voit bien, mais Jésus a été battu de verges. Jésus a été battu, a été fouetté. Jésus a été crucifié, c'est un dessin d'Odercée que j'aime beaucoup. Dieu t'aime grand comme ça, avec toute l'étendue de la croix. Et voilà, la vie de Jésus. Voilà, souvent on peut se dire notre vie est injuste. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Voilà, j'ai pas mérité ça. Quand on regarde la vie de Jésus, lui qui n'a fait aucun péché, lui qui n'a fait aucune bêtise, il a été condamné, il a été battu, il a été crucifié. Il a porté le péché de tout le monde. Il le porte. Et ouais, on n'a pas subi le millième du millième de l'injustice qu'il a subi. Et voilà, juste insister là-dessus. Quand nous ça va pas, quand on se tourne vers Jésus, sa réponse c'est « je sais ». Je sais que c'est dur pour toi. Et moi aussi j'ai vécu des temps difficiles, mais il va jamais pointer vers lui-même. Il va juste dire « je sais, je compatis, je prends du temps avec toi ». Et il y a des moments difficiles, mais ce qu'on voit c'est que Dieu va pas forcément les guérir d'un claquement de doigts. Mais il veut nous apprendre des choses aussi à travers ça. Et il prend soin de nous à travers ça. Mais il est là et il dit « je sais et je compatis avec toi ». Et que ça puisse être un profond encouragement pour nous aussi que le Dieu créateur de tout l'univers compatit avec nous. Alors, les défis. Application et défis. Alors, je vous ai parlé des plafonds à détruire. Je reviens un peu sur ce qu'est. Qu'est-ce que c'est un plafond ? Ce que je vous ai dit, c'est que c'est une idée fausse sur Dieu, sur la façon de fonctionner, en pensant qu'il est pousse-bouton, sur moi ou sur les autres. Et alors, la première question, c'est qu'il faut détecter ces plafonds. C'est-à-dire, c'est bien beau de... Bon, il y en a sans doute, mais avant de le faire sauter, il faut savoir lequel c'est. Alors, et je vais vous proposer différentes idées et défis pour essayer de trouver des plafonds. Alors, le premier, ça peut être prier, demander à Dieu dans les devoirs. Ce qui va avec ça, c'est aussi réfléchir. Par exemple, se demander, oui, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi est-ce que... quel est le problème? Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me contrarie vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que c'est le problème qui me contrarie? Qu'est-ce que c'est qui me contrarie? La deuxième piste d'idée, c'est de demander aux autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a tous une vie différente. Et Dieu nous apprend tous des choses qui sont propres. Mais Dieu nous a donné la richesse de l'Église, avec un grand E, qui est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des croyants, l'ensemble de ceux qui croient en Dieu, pour pouvoir aussi avoir d'autres idées de ce que fait Dieu dans les vies, pour pouvoir grandir. Et donc, mon défi, c'est de demander. Demandez autour de vous, qu'est-ce que Dieu vous a appris? Qu'est-ce que Dieu vous a appris? Vous pouvez demander à d'autres chrétiens de Palaiseau, mais vous pouvez aussi demander à d'autres chrétiens des églises alentour, Orsay, Massy, et pourquoi pas des charismatiques, des baptistes, des pentecôtistes. Pourquoi pas aussi des catholiques, des orthodoxes, ou même des juifs. Voilà, je le provoque peut-être un petit peu, mais ils n'ont pas raison sur tout, nous non plus. Voilà, on en est là. On a besoin, on a la Bible pour se recentrer, mais on a besoin d'apprendre. Et j'ai énormément appris, je me suis pris quelques baffes et quelques plafonds avec des orthodoxes. Je me suis pris, voilà, on apprend progressivement sur ce que fait Dieu. Et d'autres personnes ont des choses qu'ils ont apprises de Dieu. Et il faut nous laisser surprendre pour cela. Alors, je suis conscient que c'est délicat de demander à quelqu'un de raconter un témoignage, mais je veux vraiment vous encourager à le faire. Alors, les préados connaissent bien la slide suivante. Mission possible. Alors, je leur fais ça à chaque fois quand je suis au caté. Je vous propose une mission qui est tout à fait possible. C'est à vous. Vous avez toujours le choix de l'accepter ou pas. Et là, la mission pour vous, cette semaine, c'est de demander une histoire à quelqu'un, un témoignage, de raconter un témoignage. Alors, un témoignage, je ne vous demande pas quelque chose. Je vous demande pas, alors, ça peut être raconter votre conversion, ça peut être raconter quelque chose de miraculeux, ou ça peut être raconter que ce matin, en venant à l'église, j'ai prié pour avoir une place, et il y a une voiture qui est partie devant moi et j'ai pu me garer. Un témoignage, c'est tout ça, et c'est une façon de nous surprendre aussi sur penser au-delà des cadres. Oui, Dieu, il est assez grand pour nous réserver une place de parking. Et on peut demander ça. Donc, voilà, je vous encourage vraiment à le faire, de demander un témoignage. Et après, vous vous dites peut-être, non mais moi, j'ai rien à raconter sur ma vie. Je veux dire, ma vie, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe dedans. Je vais quand même, ça n'intéresse personne ce que je vis. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas le centre du monde, chacun d'entre vous, ni moi. Mais le centre du monde habite en vous. Mais le Dieu de l'univers habite en vous et agit en vous. Et c'est ça qu'il faut raconter. C'est ça que je vous propose de raconter. Donc voilà, le premier défi, c'est raconter un témoignage et demander un témoignage. Et donc ça, c'était la première mission possible. La deuxième, elle est dangereuse. Très dangereuse. Peut-être faire demi-tour. Voilà, vous pouvez la refuser. Même moi, bon, je l'ai fait hier soir à la fin de ma répétition, mais elle n'est pas facile. C'est prier. Salle de prière, danger d'exaucement, faites attention à ce que vous dites. La prière, Dieu peut répondre. Dieu répond. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une période de ma vie où j'ai prié pour que Dieu me surprenne. Ça a pris un an et demi, et au bout d'un an et demi, j'étais bien surpris. J'ai eu des moments pas faciles à cause de cette prière, mais j'ai vraiment grandi à travers ça. Je crois qu'il y a eu deux plafonds. En termes de plafond. Et je vais vous encourager à prier, à demander à Dieu, surprends-moi. Surprends-moi, que ce soit à travers la personne à qui je vais demander un témoignage cette semaine, ou que ce soit à travers des choses que tu vas faire dans ma vie plus tard, et les personnes que tu vas me présenter. Voilà. Mais c'est risqué. Et moi, je vous encourage à courir le risque. Voilà pour ce que je voulais vous raconter ce matin. Je vais prier pour conclure, et puis ensuite les préados vont venir. Oui, Père Céleste, je te loue pour qui tu es. Je te loue parce que tu es ce Dieu grand, tu es ce Dieu élevé. Et Seigneur, tu ne tiens pas dans l'univers entier. Dans ta paume seulement, on peut mettre tout l'eau de la terre. Et tu es juste tellement grand, tellement puissant. Mais tu prends soin de nous, Seigneur. Tu es gracieux envers nous. Tu veux prendre du temps avec nous, Seigneur. Et juste merci. Merci pour Jésus. Parce que en cette période où on se souvient de sa naissance, on se souvient de toute sa vie, Seigneur. Et que lui, il a vécu des choses beaucoup plus injustes. Alors, Seigneur, aide-nous à avoir le regard fixé sur lui au quotidien. Seigneur, ouais, je te remets vraiment chacun. Tu vois, je te prie de tous nous garder, de nous permettre de grandir chacun avec toi. On veut, ouais, tu tiens dans tout l'univers, nous on est un peu obligés parce qu'on est limité, peut-être de te laisser dans une boîte, mais viens habiter en nous, viens habiter dans cet immeuble, et qu'on puisse nous faire sauter les plafonds pour que tu aies toujours plus de place, Seigneur. Pour qu'on puisse racheter la place dans notre vie pour toi, Seigneur. Ouais, Seigneur, viens vraiment être élevé dans notre vie, tout au long de notre vie, Papa. Amen. Ah, et merci à la technique pour le feedback.